Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un épisode spécial, un numéro hors série, le premier et j'espère pas le dernier du genre. Je vous propose dans ce cadre-là de se focaliser en fait sur un artiste, un genre, une année, débattre d'un article paru dans la presse, etc. Ou encore, comme c'est le cas ici, vous parler d'un morceau, d'une chanson bien spécifique. Et pour ce premier numéro, quoi de plus à propos finalement qu'une chanson intitulée One ? One, le morceau de U2 qu'on va décortiquer ensemble sous tous ses sillons. Histoire de son écriture, décryptage de son texte, place dans la carrière de U2 et héritage du morceau sont au sommaire de cet épisode qui, j'espère, vous plaira, fan ou non du quatuor irlandais. Un petit jingle à base de coups de baguette pas anodin. Et on est parti pour cet épisode hors série numéro 1 consacré au One du groupe U2. One est typiquement ce qu'on appelle un coup de génie. Alors pourquoi me direz-vous ? Eh bien parce que le titre a tout en fait de ces morceaux qui sont nés d'une inspiration éclair, un moment très créatif et assez rare dans la carrière d'un groupe qui consiste en fait à jammer quelques accords, puis à trouver le fil conducteur du morceau pour ne le lâcher qu'une fois le titre en boîte. Car en tout et pour tout, One fut quasiment achevé en 15 minutes. Un exploit qui prend une résonance encore plus particulière quand on connaît la désorganisation notoire des Irlandais de U2 en studio, qui sont généralement plutôt pantoufleurs et pas vraiment des bêtes hein, de composition et de travail. U2 a pour habitude de passer des plombes en studio, à lancer des idées incongrues ci et là, où le groupe passe parfois des jours à essayer d'échafauder un semblant de morceau avant de se rendre compte que finalement l'impasse est totale. À la fin de l'année 90, alors qu'il est en studio à Berlin, U2 est dans une impasse telle que la fin du groupe est même envisagée. Le batteur Larry Mullen Jr. témoigne de cette époque d'ailleurs par ces mots, je cite « Pour moi j'ai cru que c'était la fin du groupe, et soudain, One est arrivé. » Alors, revenons un petit peu en fait sur le contexte hein, de la création de ce titre qui se veut donc salvateur, hein, si on en croit les mots du batteur. Au printemps 1987, déjà, U2 publie Joshua Tree, hein, son album majeur, celui qui le propulsera au sommet des charts mondiaux au gré d'une campagne de promotion tout bonnement exténuante. Dans son bouquin, sa discothèque idéale, Philippe Manœuvre, qui n'est pas vraiment l'un des plus grands fans de U2, hein, loin de là, justifie d'ailleurs quasiment hein, le succès du disque Joshua Tree dans la capacité des Irlandais à être les seuls ou presque à pouvoir encaisser une telle campagne de promotion. Alors c'est un argument qui peut s'entendre tant en fait le staff de U2 à l'époque a poussé pour que ces poulains soient vus et entendus partout où c'était possible, mais on ne peut pas nier quand même les indéniables qualités musicales d'un Joshua Tree qui est quand même un cru absolument exceptionnel hein, de cette année 1987. Du printemps 1987 au Lofton Tour de l'hiver 1990, U2 n'a quasiment pas levé le pied et n'a pas cessé de se produire sur scène, au cours de dates qui sont assez particulières en fait, car le groupe y explorait les racines un petit peu plus américaines de son répertoire, du blues, de la country, de la folk. Ils y défendent d'abord Joshua Tree, l'album qui est paru en 1987, puis finalement ils viennent défendre Rattle and Hum, un album plus controversé paru en 1988, et dont B.B. King assurera la première partie à partir de 1989. U2, on peut le dire, est alors au sommet en fait de sa période classique, hein, tant dans sa popularité que dans sa musique, puisqu'aux émoluments post-punk et wave de ses débuts, le quatuor s'est soustrait à imprégner sa musique de tous les héros américains qu'il admire, Elvis Presley et autres bluesmen du Delta en tête. Alors tout juste revenu d'Asie et d'Océanie à la fin de l'année 1989 où il était en tournée, le groupe est totalement sur les rotules, mais donne malgré tout 4 concerts mythiques au Point Depot de Dublin les 26, 27, 30 et 31 décembre 1989. Ce sont d'ailleurs des pièces magnifiques hein, pour les fans de bootleg, hein, ces disques pirates enregistrés live. Ce sont des concerts aussi très importants parce que le groupe y explore quasiment l'intégralité de son répertoire de l'année 1980 à l'année 1990. 35 titres différents sont interprétés, ce qui recoupe quasiment toute leur carrière. C'est un fait assez rare d'ailleurs chez U2, car c'est un groupe qui généralement déroge assez peu à la setlist classique qu'il façonne lorsqu'il prend la route. C'est donc un baroud d'honneur mémorable hein, que conclut Bono lors du concert du 31 décembre 1989 en se fendant d'une déclaration inattendue face à une assistance médusée, et vous allez voir pourquoi je vous en parle. Il dit, ouvrez les guillemets, il est temps pour U2 de faire une pause et de se retirer de la scène afin de définir son futur. Fin de citation. Et quel futur ? Pourquoi un changement de style chez U2 alors que finalement ils sont le groupe le plus chaud du rock, hein, si on veut bien citer la couverture, cette couverture du magazine Time ? Alors d'une part parce que les critiques négatives hein, reçus pour la publication du documentaire et de l'album Rattle and Hum, paru en 88, ont beaucoup affecté Bono et The Edge, le guitariste du groupe. Alors certains journalistes descendent en fait en flèche les Irlandais, et leur soi-disant manque d'humilité, leur attitude de rockstar dans leur entreprise, osant s'approprier le patrimoine musical américain, blasphème, de comprendre le blues et le rock'n'roll. Alors Bono réfutera toujours un peu cet argumentaire en indiquant que par cet album, U2 souhaitait en fait faire un hommage à la musique américaine qu'il admire. Et c'est finalement la première fois que U2 fâche une partie du public, qui d'ailleurs ne compte pas forcément parmi ses fans les plus fidèles. Mais ce n'est pas vraiment la dernière fois que ça arrive, puisqu'on se souvient encore du tollé déclenché par l'apparition impromptue de l'album Songs of Innocence en 2014 sur les iPhones du monde entier, et ce sans le consentement des utilisateurs. Ça avait déclenché une polémique pas possible, et je crois que d'ailleurs il est toujours impossible de se séparer de l'album. Enfin, j'ai pas d'iPhone, mais il me semble avoir lu récemment un article qui disait qu'on peut toujours pas se séparer du disque. Bref. Parenthèse fermée, avec Rattle and Hum, donc en 1988, U2 fait pour la première fois la douloureuse expérience d'une levée de bouclier, plutôt inattendue à son encontre, et que de conséquences par la suite. Hein. D'ailleurs, c'est un peu le début de ce qu'on pourrait appeler le phénomène qui perdure encore aujourd'hui, le U2 bashing, hein, cette manière systématique de détester U2, plus particulièrement Bono, hein, qui incarne le groupe hein, par bien des façons, sans autre raison d'ailleurs que son attitude exaspérante, en outre ses multiples déclarations sur des sujets sociaux bien souvent éloignés de la musique. Bref. Parenthèse fermée sur le YouTube bashing. Alors si aujourd'hui Bono en fait moins une affaire personnelle qu'il ne le faisait à l'époque, le groupe est quand même très secoué hein, par ses critiques sur Rattle and Hum, et après un dernier concert donné dans le cadre du Loft on Tour à Rotterdam le 10 janvier 1990, il se retire et n'apparaît plus ensemble en public. Quelques projets divers émaillent la vie des membres du groupe quand même pendant cette période de transition de l'année 1990. Larry écrit l'hymne de l'équipe de foot irlandaise pour la Coupe du Monde se tenant à l'été 1990. Le groupe au complet enregistre le morceau Night and Day qui apparaîtra sur une compilation visant à récolter des fonds pour la lutte contre le sida. Et c'est un point important, Bono et The Edge se lancent dans l'écriture de la musique censée accompagner la pièce de théâtre Orange Mécanique, inspirée du roman du même nom que Kubrick adaptera au cinéma en 1971. Alors, très en phase musicalement, en fait, le duo souhaite rendre le son du U2 plus électronique, plus expérimental, et s'attelle à la tâche. Larry et Adam ne comprennent, alors Larry le batteur, Adam le bassiste, ne comprennent pas du tout cette nouvelle direction musicale, mais laissent le duo après tout faire ce qui lui plaît. Ce n'est pas U2 dans son ensemble qui crédite la musique de cette pièce, qui, je vous le donne en mille, est un échec cuisant dans les théâtres. La musique est descendue d'ailleurs par les critiques, et il est donc définitivement temps pour U2 d'effectuer un peu de changement. Comme pour provoquer ce changement, U2 quitte son Irlande natale et trouve à Berlin, ville alors en plein émoi à la suite de la chute du mur, une envie nouvelle. Le groupe, son manager Paul McGuinness, les producteurs Flood et Daniel Lanois atterrissent dans la capitale le 3 octobre 1990, soit le dernier jour officiel de l'existence de l'Allemagne de l'Est, sur le dernier vol British Airways à cette destination, tout un symbole. Il investit donc les Hansatone Studios, là même où David Bowie et Iggy Pop ont mis en boîte leurs albums « allemands », entre guillemets, hein, Low et Heroes pour le premier, The Idiot et Lust for Life pour le second. Suivront d'ailleurs dans ces mêmes studios Tangerine Dream, Nick Cave, Killing Joke, Depeche Mode ou encore les Pixies. Alors pour autant, lorsque Bono et sa troupe posent leurs valises en octobre 90 après plusieurs mois de silence quasi total, pour essayer de mettre un son sur leur volonté de changement, les studios Hansatone sont dans un état lamentable et Brian Eno, qui produit le disque et leur a conseillé le lieu qu'il avait fréquenté avec Bowie à l'époque en 1977, doit leur fournir tout de suite du matériel supplémentaire. Première donc grosse désillusion, Adam Clayton qualifiera d'ailleurs l'endroit de conserver dans la naphtaline, intense, déprimant, sombre et glauque. Voilà, voilà. Donc U2 sera d'ailleurs le dernier groupe en fait à enregistrer au Hansatone Studio pour un bon moment, jusqu'à ce que en fait Snow Patrol n'y investisse les lieux en 2008. Vous croyez que je suis mégalo? Eh bien on va faire du judo maintenant. C'est par ces mots hein, que Bono définit lui-même son état d'esprit alors que débutent les sessions de l'album Achtung Baby. Il veut se servir de la force des critiques et des attaques pour renverser la situation. Les sessions d'Achtung Baby sont émaillées en fait d'une grande tension entre les membres du groupe. D'un côté, on retrouve Bono et The Edge, qui sont tous les deux jeunes papas, qui embrassent l'idée d'un renouveau sonore pour le groupe. Ils écoutent énormément de musique électronique, de crowd rock. Ils se rendent très régulièrement aux boîtes de nuit pour s'imprégner des codes de la dance music et sont également vraiment très marquée en fait par les événements géopolitiques de l'époque, comme la chute du mur de Berlin, on l'a déjà dit, ou la guerre du Golfe. The Edge, le guitariste, connaît également une séparation très douloureuse de sa femme, alors que son troisième enfant vient juste de naître. De l'autre côté, on retrouve le duo rythmique, Adam Clayton, le bassiste, Larry Mullen, le batteur, qui sont tous les deux des rockstars célibataires, et qui restent finalement assez ancrés sur les bases du Loft on Tour qui s'est achevé un peu plus tôt dans l'année, et persévèrent finalement dans leur exploration du rock classique. Larry Mullen déclarera notamment: à l'époque, j'écoutais énormément Ginger Baker de Cream et John Bonham de Led Zeppelin pour faire évoluer mon jeu et voir ce que je pouvais faire de plus. Et un jour, en plein enregistrement, The Edge me rétorque un truc cinglant: au fait, tu voudrais pas faire un petit peu moins finalement? Je vous laisse imaginer l'ambiance de ces sessions. La tension est palpable, Larry Mullen et Adam Clayton n'adhèrent pas du tout à la nouvelle direction musicale du groupe, et même si c'est Bono et The Edge, hein, les hommes au chapeau, comme ils sont surnommés lors de cet enregistrement, qui écrivent tout, chez U2 chaque avis est important, alors ce n'est pas vraiment une démocratie, hein, comme dirait le producteur Fool, c'est plutôt une dictature bienveillante finalement, mais 25% des décisions et des crédits d'écriture, hein, quoi qu'il arrive, arrivent dans les mains de chaque membre. Vous pouvez regarder d'ailleurs, hein, tous les albums de U2 sont crédités musique par U2, il n'y a pas de musique par Bono, The Edge, que sais-je. Voilà, donc d'où les difficultés finalement du duo rythmique à s'effacer lors de ces sessions au profit des expériences musicales de Bono et The Edge. Larry Mullen, encore une fois, dira même: on avait déjà surmonté des crises, mais pour la première fois, les problèmes venaient de l'intérieur, j'ai pensé que c'était la fin du groupe. Fin de citation. Alors, décidant de se mettre au travail avec sa manière habituelle, c'est-à-dire laborieuse, hein, U2 peine à retrouver cette alchimie qui ne leur avait jusqu'alors quasiment pas fait défaut. Hein, grosso modo, les séances de U2, ça se résume comme ça. Quelqu'un commence à jouer, ci et là quelques idées, chaque musicien va l'agrémenter pour espérer aboutir à quelque chose, et on voit un petit peu ce que ça donne au fil des jours. Le tout, bien sûr, sous le regard avisé des producteurs Daniel Lanois et Flood, voilà, qui sont des collaborateurs, en tout cas pour Daniel Lanois, régulier du groupe. Sick Puppy. Alors qu'est-ce que c'est que Sick Puppy? C'est le nom du seul morceau qui pour l'instant émerge des premières semaines de U2 au Ensatone Studio, où les crises sont de plus en plus fréquentes. Bono est ingérable, ses copains lui interdisent carrément de prendre du café à cause de ses accès de colère. Le nom de travail du titre d'ailleurs, Sick Puppy, c'est une référence peu flatteuse au chanteur. Alors l'ambiance vire carrément en fait à l'électrique, hein, lorsque Bono et le producteur Daniel Lanois sont à deux doigts de se battre et d'en venir aux mains suite à une énième dispute concernant la direction musicale à prendre pour le titre Sick Puppy, donc, qui deviendra plus tard Mysterious Ways. Et pourtant, dans le brouhaha des jurons des Irlandais, vient de se dessiner le salut du groupe. Nous sommes le 11 octobre 1990 et ce sont deux progressions d'accords que The Edge lance alors que le groupe travaille à la composition d'un pont pour Sick Puppy, le futur Mysterious Ways donc, qui éveille l'attention de Daniel Lanois, le producteur, qui lui propose alors de les mixer ensemble pour n'en faire qu'une seule. One est né à ce moment-là. Je vous propose d'écouter tout de suite cette archive audio qui, par miracle, a capté en fait le moment où, pour la première fois, les quatre accords de One ont été joués par U2. C'est disponible d'ailleurs sur le superbe documentaire From the Sky Down qui est paru en 2011. Je vous propose tout de suite d'écouter cet extrait, c'est la naissance de One.
Starting to come into focus. New bridge. Okay, this is the bit that I was saying that never made the song. Well, this is that. But there was another new bridge.
Interesting. That was the first. Is that the first? Is that the first time that melody?
That's the first time those chords and that melody tried out.
But didn't that shift into
one?
Et le mot de la fin est pour Bono, hein, One, voilà, c'est lui qu'on entend commenter en fait à la fin de cette archive audio. Il explique en fait que c'est la première fois hein, que les accords ont été joués par U2, que cette mélodie a été jouée et que c'est devenu One. D'ailleurs dans l'archive vous pouvez entendre au moment en fait où on entend la transition, The Edge, le guitariste, dit juste voilà on faisait le nouveau pont et là that. C'est ça donc qu'on entend, cette progression d'accords, La mineur, Ré, Fa, Sol, IMD, FG en version anglo-saxonne. C'est vraiment un miracle finalement que les bandes tournaient à ce moment-là pour capter ce pur moment de création. Bono est d'ailleurs très directif, hein, on l'entend hein, beaucoup dans les archives, il indique quel accord jouer à quel moment, il indique aussi le tempo, si c'est bon ou pas, enfin voilà, il est vraiment très présent dans le rôle de la composition. C'est intéressant d'ailleurs de l'entendre et de les voir fonctionner ensemble. Alors Bono il est subjugué par le titre au moment où c'est joué, il demande d'ailleurs qu'on lui fasse parvenir une guitare acoustique à la vitesse de la lumière, c'est assez marrant, et il fredonne quasiment immédiatement la mélodie juste après que ces accords soient joués, en à peine 10 minutes. On a un extrait d'ailleurs des premiers fredonnements vocaux de Bono pour One, et vous allez voir à quel point ça ressemble quasiment finalement à la mélodie du titre terminé. On écoute tout de suite les premières vocalises de One.
Did you got it? No. Fuck. Did you want it? Nothing. And make an acoustic guitar at the speed of light. Have you nothing personal? Does it numb to end your call? When the movie's going. Piano edge to the sea, stay on the sea. This A minor F to G. If you can get the piano in Edge, that helped with the last time. And I'd like to hear Edge, Joe.
Quelle archive passionnante que ces premiers fredonnements vocaux et mélodiques hein, de One, de U2. Donc c'est la première fois que Bono se frottait aux paroles. Alors avec du yaourt, hein, vous avez vu, alors il dit, voilà, on chante l'accordage, il chante aussi les accords, voilà, il guide vraiment la création de ce morceau. Donc les Irlandais se retrouvent dans ce grand studio des Hans Atone Studio, ils oublient finalement tous leurs accrochages passés, ils se mettent tout bêtement à jouer. Flood, qui est alors le producteur derrière la table de mixage, dira de ce moment, je cite, 90% du titre est arrivé comme ça en 15 minutes, c'est un moment unique que nous avons réussi à saisir. Alors des témoignages, fin de citation, hein. Des témoignages de tous les autres membres du groupe présents ce jour-là, il s'est passé quelque chose, hein, lorsque The Edge a entonné ses accords, Adam Clayton, le bassiste, déclarera, ouvrez les guillemets, on allait dans l'impasse jusqu'à ce que One surgisse et qu'on trouve un sillon. Fin de citation. Edge, pour sa part, loue des moments d'illumination où vous créez quelque chose de véritablement fort, One vous frappe en plein cœur, c'est un moment très spirituel. Bono, quant à lui, conclut par ces mots, j'ouvre les guillemets, peut-être qu'on parvient à faire des choses grandioses quand le très bon se fatigue, on a failli tomber dans le médiocre et soudain One est arrivé. Fin de citation. Donc voilà, cette archive, elle est vraiment passionnante. Elle se retrouve donc sur le documentaire From the Sky Down, qui raconte toute cette période de U2. Hein. Alors, ça parle de One, bien sûr, mais ça parle aussi de toute la partie de l'album Artung Baby, de la création d'Artung Baby, de la tournée du Zoo TV Tour, bref. Voilà, c'est un documentaire passionnant qui a été diffusé d'ailleurs sur Arte il y a quelques années. Je sais pas si vous pouvez encore le retrouver, je sais qu'il est sur YouTube doublé en français. Voilà, sinon, le DVD ou le Blu-ray est disponible à la vente, je crois, à part. C'était un documentaire qui était présent dans l'édition de luxe Artung Baby 20e anniversaire paru en 2011. Pour conclure cette première partie de podcast consacrée au titre One de U2, je vous propose d'écouter la version non terminée de One, hein, donc rapport aux archives qu'on vient d'écouter juste avant. Avant donc finalement que Brian Eno, le producteur du disque, ne la simplifie, hein, selon ses propres dires, et qu'elle subisse ses premiers overdubs, hein, donc ses ajouts hein, lors d'autres sessions, les sessions irlandaises pour le coup, de l'enregistrement de l'album Artung Baby. Une version que vous pouvez retrouver dans l'un des disques bonus contenus dans l'énorme édition 20e anniversaire anniversaire de Hartung Baby, l'album d'ailleurs sur lequel One est donc paru, je ne sais pas si je l'avais précisé auparavant. C'est donc le 6e disque du coffret qui s'intitule Kindergarten's Alternative Hartung Baby Album, sur lequel on retrouve donc en fait les versions brutes des titres de l'album original, offrant une nouvelle lecture d'ailleurs passionnante hein, à ce disque culte, avec une production édulcorée, moins d'effets sonores, des morceaux qui sont plus ou moins différents de leur version finale. Ici, One se dévoile sous ses traits adolescents, on va dire, hein, imparfait, emphatique, une guitare acoustique très présente, que Brian Eno réduira quasiment au silence en fait hein, lors du mixage, et surtout la voix incroyable de sensibilité de Bono. Vous allez voir, ce sont exactement les mêmes lignes vocales qu'on retrouve sur le titre terminé, point qui corrobore finalement les dires du groupe, hein, selon lesquels la création du titre fut quasi instantanée. D'ailleurs, les autres titres de l'album Kindergarten sont très différents dans leur version finale. Voilà, ou plutôt l'inverse, hein, les titres de l'album sont très différents dans leur version Kindergarten. Les seuls morceaux qui font office d'exception à ce niveau-là, c'est One, donc, ça on l'a dit, et Acrobat, hein, qui sont les deux seuls titres qui ressemblent beaucoup, en fait, à leur version finie. Je vous propose donc d'écouter tout de suite One, c'est inédit, je pense, c'est pas disponible sur Spotify ou sur Deezer, ça, donc vous le trouverez nulle part. One dans sa version Kindergarten, qui s'appelle Baby One, et on se retrouve tout de suite dans la foulée pour la suite de ce podcast consacré à One de U2. Ce sera donc un autre épisode, j'ai scindé l'épisode en trois parties. Voilà, j'espère que ça vous plaît. On écoute tout de suite One dans sa version Kindergarten non terminée, et je vous dis à tout de suite pour la partie 2.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You'll say, one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot. You gave me nothing, now it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, then we're doing it again. You say love is a tempo. Love the higher love. You asked me to enter. Well, then you made me crawl. And I can't be holding on to what you got when all you got is hurt. One love, one blood, one life. You got to do what you should.
sisters, brothers, one life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other.